Département du Tarn, Madame la Présidente de la Communauté de Communes, Monsieur le député, cher Philippe Bonnecarrère, que je retrouve avec bonheur, il nous a quittés, mais pour le service de la République, et ce qui me permet de saluer mes deux collègues sénateurs, Magali Ousseau qui lui a succédé au Sénat, j'ai particulièrement intégré très vite à la Commission des affaires économiques, et Philippe Polliot, à qui je dois que mes pas m'aient conduit aujourd'hui jusqu'ici, et qui vient de parler, qui m'a évoqué dans la voiture tout ce que représentait ce territoire en symbolique. Permettez-moi de saluer la présidente de l'association du musée, de saluer mes collègues conseillers régionaux, conseillers départementaux, président de l'association des maires, président de l'association des maires ruraux, et vous tous dans votre diversité. Oui, je suis heureux d'être parmi vous et peut-être essayer de répondre par le regard qui est le mien sur cette conception protestantisme, laïcité et république. J'ai d'ailleurs commis un ouvrage, vous le laisserez, vous ne l'avez peut-être pas dans votre bibliothèque, qui est la plus riche de France, parce que Henri IV avait bien dit « Paris vaut bien d'une messe », ben je vais vous dire « Fontrieu veut bien abuser du protestantisme ». Et je vais paraphraser. C'est un travail que j'ai fait avec Marcel Gaucher. C'était il y a quelques années, au moment où le président de la République s'était mis en réflexion pour bouleverser la loi de 1905. Et nous avons dû exprimer dans cette réflexion que ça n'était pas simplement un texte parmi d'autres, qu'il était, alors que nous venons de fêter les 150 ans du Sénat de la République, au fondement des piliers d'une République. D'une République, je le rappelle, qui doit être aussi démocratique, laïque et sociale, dans la définition de notre Constitution. Et puis, nous avons fêté, au travers de lectures commentées des textes d'Émile Comte, de Jean Jaurès, d'Aristide Briand, de Georges Clémenceau, les 120 années du vote de la loi de 1905. Et donc, j'ai eu l'occasion le 19 novembre dernier, à l'hôtel de la ville de Paris, de participer au 120e anniversaire de la Fédération protestante de France. Et cette concomitance, loi 1905, 120 ans de la Fédération protestante de France, c'est pas un hasard. Parce que c'est la loi de 1905 qui a engendré, après que Bonaparte l'ait fait, l'organisation du fait religieux dans notre pays. Bonaparte avait joué un rôle extrêmement important dans l'organisation du fait religieux, mais c'est la loi de 1905 qui lui a donné sa signature définitive. C'est ce que cette concomitance, c'était le pasteur et historien Gaston Bonnet-Maury, dont le fils a été secrétaire général du Sénat. Pendant la Première Guerre mondiale, peu le savent, il disait qu'il y a une affinité élective entre l'esprit protestant et l'esprit républicain. Le président de la République lui-même l'avait dit au 500e anniversaire de la Réforme en 2017, en parlant de vigie de la République. Donc, continuer à faire vivre la liberté, malgré la révocation de l'édit de Nantes, retrouver des raisons d'espérer dans les assemblées du désert, tel fut le long combat des protestants et de leur résilience. C'est peut-être ce que nous venons de gravir sur cette rampe, ce qu'incarne ce musée, qui rassemble des souvenirs de longue résistance autour de Mazamet et puis Laurence, le combat de protestants. Il y a eu ici des lieux où se rassemble un peu comme à Mialet, le quatrième dimanche d'août, dans la mémoire du désert, à la pierre plantée, les protestants. Cet attachement à la liberté, consubstantiel, protestantisme et esprit républicain, cet attachement amena le fils d'un pasteur du désert, lui-même pasteur, Rabaud Saint-Étienne, président de l'Assemblée constituante à un moment, en 1790, à inscrire dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne nuisent pas à l'ordre public établi par la loi. Monsieur le préfet, c'est aujourd'hui toujours le fondement de l'état de droit dans sa relation avec les religions. Mais il ajoute aussi quelque chose qui m'est particulièrement cher. Il dit, messieurs, pardonnez-moi, mesdames, à l'époque, la représentation féminine n'était pas abondante, elle était même inexistante. Ce n'est pas la tolérance que je réclame, c'est la liberté. Et c'est un point extrêmement important qu'on oublie trop souvent dans cette déclaration universelle, auquel est consubstantielle la notion de liberté. Les protestants ont été les pionniers s'agissant de la séparation des églises et de l'État. Et bien avant 1905, Boissy d'Anglas, promoteur du bicamérisme et futur président, j'y ai pensé en passant devant la photo des Bibles, premier président de la Société biblique de France, fut à l'origine de la première esquisse de séparation par le décret du 3 Ventôse de l'an 3, nous sommes en 1795, il proclame la liberté de culte en même temps que la neutralité de l'État. Cher Patrick Cabanel, dont je voudrais saluer pour les travaux, l'engagement et la solidité, je rappelle que Boissy d'Anglas, mes chers collègues, c'est lui qui propose le Conseil des Anciens en 1795, après les excès de la terreur, et qui dit qu'il faut, parlant, monsieur le député de l'Assemblée nationale, une assemblée de l'imagination, mais parlant du Conseil des Anciens qui prélude au Sénat, il nous faut une assemblée de la raison. Et je dois dire que c'est à méditer, y compris pour aujourd'hui. Les protestants marquèrent évidemment de leur empreinte les lois fondatrices de la Troisième République. C'est vrai, c'est notre évocation du mois de décembre dernier, cher Philippe Folliot. Ces lois étaient imprégnées de l'esprit de la laïcité. Pensez bien, les lois fondamentales, 1880, la liberté d'expression, 1884, la loi communale, puis les lois scolaires, 1901, la liberté associative, 1905, nous sommes dans les piliers de la République, et au-delà de la troisième, nous sommes dans les références de la République. Oui, je pense à l'enseignement obligatoire. Il y eut un débat sur la séparation du scolaire et du religieux. Avec un ralliement sans enthousiasme, il faut le dire, cher Patrick Cabanel, c'est les plus orthodoxes des protestants, mais plein et entier chez les plus libéraux qui accèdent au poste de responsabilité. Ferdinand Buisson, un protestant, rejoint le cabinet de Jules Ferry et il fut l'inspirateur des grandes lois scolaires que j'évoquais il y a un instant. Comment ne pas évoquer le rôle de Louis Méjean, qui va devenir en 1905 le principal conseiller d'Aristide Briand. C'est par conviction religieuse que ce fils et frère de pasteur a souhaité la séparation qu'il a contribué, par tous les moyens de son pouvoir, à la réaliser. Il y voyait une condition de la liberté. Il continuera son combat au Sénat à partir de 1924 comme sénateur du Gard. Les protestants surent rallier l'opinion publique à une solution libérale en soutenant la conception d'Aristide Briand. Et pardonnez-moi d'être impertinent qui a cloué au sol la conception d'Émile Courbet, pour lequel j'ai moins de passion, je voulais dire, même si je suis dans le Tarn et que je manie tout ça avec beaucoup de modération comme un protestant président du Sénat veut le faire. Mais je dois vous dire que... grâce au talent et à l'engagement des protestants, des parlementaires, le rôle de Louis Méjean est très important. La loi de 1905 a permis la neutralité de l'État dans le respect de la liberté religieuse. Et il y a une formule de Briand, essentielle, monsieur le préfet. La loi protège la foi aussi longtemps que la foi ne prétend pas dicter la loi. Nous sommes au cœur, me semble-t-il, du caractère, j'allais dire, intemporel de la loi de 1905. C'est donc une loi de liberté. Certes, tout n'a pas été réglé miraculeusement par la loi de 1905. Il a fallu du temps pour que l'Église catholique admette l'intérêt de cette liberté à tous, même si certains catholiques libéraux étaient très favorables. Je pense au comte de Sauville, qui tenta d'amener les catholiques à cet équilibre dans cette loi de liberté. La liberté est entrée dans notre tradition, non pas une tradition morte, mais une tradition vivante. C'est pourquoi elle est le quatrième des principes, des piliers de notre devise, liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et j'ai eu le très grand honneur, le 24 octobre dernier, d'être reçu en audience privée par le nouveau pape, Léon XIV, qui avait un certain nombre de sujets avec lesquels il m'avait invité pour échanger avec le président du Sénat, la situation dramatique des chrétiens en Cisjordanie, je dois le dire, et qui n'est pas que l'effet des communautés musulmanes, mais c'était le premier sujet. Bien sûr, un sujet que nous allons aborder la semaine prochaine, soins palliatifs et accompagnement vers la mort, ben, il m'a demandé de lui expliquer comment je voyais la laïcité à la française. C'était une tâche difficile à faire vis-à-vis de Léon XIV. Mais il était entraîné puisque la veille, il avait reçu le roi Charles. Et je lui ai dit deux schismatiques en deux jours, ça me fait beaucoup, très sincère. Et je dois vous dire que j'ai eu une écoute particulièrement attentive sur la compréhension de cette laïcité à la française. Je pense parfois que nous avons un devoir, les uns et les autres, de transmettre ces principes qui sont des facteurs de paix civile et de concorde nationale, et de transmettre à des jeunes générations qui parfois ne mesurent pas tout ce qu'elles doivent à la loi de 1905. La laïcité française est un tout qui dépasse la vision réductrice et asséchante que certains voudraient lui en donner. Elle repose sur le respect absolu de la liberté de conscience et de l'égalité des citoyens. C'est en fait une foi profonde dans la raison. Et je reviens presque à Boissy-d'Anglas. Je crois qu'il convient aussi d'éviter d'accoler un mot, un adjectif au mot laïcité. Je suis pour la laïcité, sans adjectif, monsieur l'auteur, qui est devant moi. Une laïcité me paraît conforme à notre tradition. Je voudrais citer un autre auteur, qui n'est pas Boissy-d'Anglas, mais qui est Régis Debray. Qu'est-ce qu'il dit ? La laïcité ne donne pas de raison de vivre, mais des raisons de ne pas s'entretuer. Je crois que c'est extrêmement important de le réaffirmer. En ces temps, nous voyons bien, je pense à ce qui se passe en Iran, et je pense à un certain nombre de choses où nous voyons les drames des phénomènes théocratiques. La laïcité fait partie de nos principes constitutionnels. Et je le redis, comme je l'avais dit au président de la République, il ne faut toucher à la loi de 1905 que d'une main tremblante, comme le disait Montesquieu. Est-ce à dire que la loi soit intangible? Elle a déjà été modifiée à de nombreuses reprises. Ces modifications ne seraient que des ajustements techniques qui ne mettent pas en cause la cohérence des grands principes. C'est pourquoi toute modification de cette loi n'est possible que si elle est consensuelle, discutée, transparente et non subreptice. Vous savez, c'est le Conseil d'État qui a adapté progressivement la loi de 1905, s'agissant, on pourrait le rappeler, des cortèges traditionnels et des processions qu'elle a autorisées, permettant à chacune des religions de pouvoir s'exprimer dans son identité. Cette loi a été adaptée, je pense à des textes plus récents auxquels nous avons participé, un certain nombre d'entre nous, je pense à la loi de 2021. Souvenez-vous, cher Philippe Bonnecarrère, lors de la discussion de ce projet de loi, le Sénat avait souhaité renforcer la lutte contre le séparatisme, qu'il s'agit du délit séparatiste, du contrat d'engagement républicain pour les associations, de la lutte contre la haine en ligne, d'une meilleure transparence des cultes. Mais la loi de 2021, et le Sénat tout particulièrement l'avait rappelé, il est essentiel qu'elle n'entrave pas la liberté religieuse. La loi de 1905 est naturellement une loi qui est le résultat d'un long processus de maturation qu'on voit bien tout au long du cheminement que nous venons de faire. Depuis 1905, d'autres religions en expansion ont fait irruption depuis. Je pense évidemment à l'islam, deuxième communauté religieuse en France aujourd'hui, mais aussi au bouddhisme et à l'évangélisme dans sa particularité qui est assez différent du cheminement que nous faisons de faire. Et je crois que face au risque toujours présent du communautarisme, de l'obscurantisme, du fondamentalisme, nous devons rester vigilants. Il nous faut faire preuve de fermeté face à ce danger, sans pour autant ébranler le fragile équilibre bâti en 1905. Ça a été nos débats sur la loi de 2004, sur l'encadrement du port de signes ou de tenues manifestant une appartenance religieuse dans les écoles, les collèges et les lycées publics. De même, le Sénat a réaffirmé sa volonté d'étendre aux personnes qui participent au service public de l'éducation. Rappelons-nous, c'est la commission Stasi qui se réunissait au Sénat, qui a fait maturer et évoluer la réflexion. Mais cette fermeté doit être accompagnée, me semble-t-il, de la reconnaissance du fait religieux. Et je pense que c'est un des objets de ce musée. Le fait religieux est une donnée sociale et sociétale que l'on a sans doute trop négligée. De même que les valeurs philosophiques qui ont structuré notre République. Je pourrais évoquer toute la tradition maçonne et son apport à la République. Il doit s'agir aujourd'hui pour l'État, non pas d'être intrusif vis-à-vis des religions, mais de les accompagner en fonction des besoins qui leur sont propres, à partir des dialogues rénovés. Nous avons besoin des religions dans la vie de la cité. C'est ainsi que nous échangeons régulièrement. Voilà quelques réflexions que je voulais vous livrer, parce que vous sentez bien que je suis profondément attaché à la laïcité. J'ai à titre personnel un engagement qui ne m'est pas venu par héritage, mais par choix. Et donc, ce choix, il est l'exercice de ma liberté, mais qui doit respecter la liberté des autres, tout en mettant la laïcité au-dessus de tout. Alors, je voudrais peut-être conclure par une phrase du pasteur Dietrich Bonhoeffer. Vous savez que ce pasteur fut parmi ceux qui ont été les premiers résistants au national-socialisme. Il dit « Le premier service que l'on doit aux autres dans une communauté consiste à les écouter. Tout comme, il est pasteur, notre amour pour Dieu commence par l'écoute de la parole de Dieu, le début de l'amour pour les autres est d'apprendre à les écouter. » C'est aussi, semble-t-il, sur ces phrases de Dietrich Bonhoeffer, je dois dire que je voulais conclure pour que tout simplement, vive la laïcité, vive la République et vive la France.